Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Des trains à l'arrêt et des voyageurs qui restent à quai, grève des contrôleurs tout le week-end à la SNCF. 6 TGV sur 10 annulés en moyenne, même chose pour les intercités. Les chefs de bord réclament une revalorisation de leur salaire et le spectre d'une pagaille sur les rails se profile pour les fêtes. Dans cette édition, on parlera aussi retraite, les négociations ne sont pas terminées, mais Elisabeth Borne pose déjà un cadre. Les Français nés au deuxième semestre de 1961 seront les premiers concernés. On vous dira tout. À suivre aussi une enquête pour meurtre ouverte après la découverte des corps de deux nouveau-nés dans un congélateur dans le Vaucluse. Et puis le mondial exit, la Belgique et l'Allemagne. Les surprises s'enchaînent au Qatar. Le Maroc et le Japon, eux, joueront les huitièmes de finale.
RTL Midi, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, à Pierre-Bénite dans le Rhône, où face au coût de l'énergie, on a décidé d'arrêter le patin à glace pour privilégier le patin à roulettes. Short, message, service, SMS, il aura 30 ans demain. On reviendra après le journal sur ce mode de communication qui a pris tellement de place dans vos vies. À midi 20, RTL Midi, votre vie, midi 20, plongée dans le vin. On parlera des vins nouveaux aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que le Beaujolais dans la vie. Juste avant 13h, LVT midi en musique. Ce vendredi, Zazie Goldman, on vous promet un joli programme. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr. Des possibles coupures de courant cet hiver, est-ce que cela vous inquiète?
Et puis on pourra évidemment rendre hommage également à Mylène de Mongeau avec les auditeurs à partir de 13h au 32-10.
La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour, eh bien écoutez, on a beaucoup de grisailles, mais je vous ai déniché un petit peu de soleil quand même en Bretagne ou en Haute-Normandie notamment.
Merci Valérie.
RTL Midi.
Un avant-goût peut-être d'une grosse pagaille pour les fêtes. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève depuis ce matin, 8h, et pour tout le week-end, pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. Seuls 4 TGV sur 10 circulent donc dans le pays. Même chose pour les intercités. Bonjour Martin Choc.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de la gare Montparnasse à Paris, puisque l'axe atlantique est l'un des plus touchés. Seul un TGV sur 4 en circulation. Et vous avez rencontré des voyageurs résignés, mais un brin agacés.
Ah oui, à l'image de Léo, 29 ans, il rentre tout juste de l'étranger. Il devait prendre un train tôt ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle. Un train annulé, du coup, il se retrouve à Montparnasse ce midi, après avoir acheté un nouveau billet. Et maintenant, il s'inquiète franchement pour les fêtes.
Prendre Noël en otage, ça fait mal. Mais voilà, j'ai pas fait Noël depuis 3 ans en métropole, en tant qu'expatrié. Et ouais, je devais prendre le TGV le 25 pour aller voir ma famille, voir un peu tout le monde à Noël. Mais bon, bah là, c'est un peu double peine entre ce week-end et Noël, ouais.
Alors malgré cela, Léo comprend les grévistes comme Stéphanie qui s'adapte comme elle peut.
Une vraie misère. Parce que j'ai dû prendre un billet de train au dernier moment. J'ai eu un SMS me disant que c'était annulé. Et hier soir, ça a été la grande galère entre est-ce que je prends un bus, un Blablacar. Pour le triple du prix, j'ai le droit de partir à Rennes aujourd'hui sur un train classique.
La galère des voyageurs ne fait que commencer puisque tout le week-end, seulement un train sur quatre roulera sur l'axe atlantique.
Martin Choc, gare Montparnasse à Paris. Pour RTL, notez que les péages des autoroutes vont augmenter de 4,75% en moyenne le 1er février prochain. Alors c'est moins que l'inflation, mais il y avait déjà eu une hausse de 2% cette année.
La réforme des retraites sera présentée dans moins de 2 semaines, mais la Première ministre prévient déjà les Français nés à partir de 1961. Il faudra travailler plus longtemps, donc on est tous concernés autour de la table.
À partir du deuxième trimestre 61, exactement, c'est ce que précise Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Quelques mois de plus, car l'allongement de l'âge de départ sera progressif pour atteindre 64 ou 65 ans. Ça, ce n'est pas encore tranché, fait savoir l'exécutif. Les négociations se poursuivent avec les partenaires sociaux. Le texte sera présenté le 15 décembre pour arriver en Conseil des ministres en janvier. Le gouvernement se prépare aussi à l'autre grand sujet du mois de janvier. C'est possible aux coupures coupures de courant en cas de tension trop forte sur le réseau, si les températures sont trop basses notamment. Alors un plan est déjà établi avec des établissements prioritaires, les hôpitaux par exemple, qu'il n'est pas question de priver d'électricité. Mais quid des patients hospitalisés à domicile, ceux qui ont besoin d'appareils électriques au quotidien pour leurs soins? Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour.
Dites-nous, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces patients-là?
Eh bien, la première étape, c'est de se signaler. Il faut contacter son agence régionale de santé qui tient un registre de ce qu'on appelle les patients à haut risque vital. L'intérêt, c'est d'être prévenu le plus tôt possible pour se préparer à la coupure. Alors en général, les machines vitales comme les respirateurs ont des batteries avec une autonomie qui dépasse largement le temps des coupures. L'idée, c'est donc de pouvoir les charger à bloc avant le jour J et, si nécessaire, de demander une hospitalisation. Alors comment fait-on pour les prévenir? Eh bien, dès qu'Enedis sait à peu près où et quand une coupure pourrait avoir lieu, c'est-à-dire 2 à 3 jours avant, on va contacter ces malades par tous les moyens, par téléphone ou allant directement chez eux. Et si Enedis n'est pas sûr à 100% qu'ils sont tous prévenus, on ne va tout simplement pas couper le courant dans ce secteur-là. Et puis enfin, pour tous les patients qui ne sont pas concernés par un risque vital, il faudra faire comme tout le monde, rentrer son adresse sur le site monecowatt.fr la veille au soir avant une potentielle coupure.
Merci Nathan Bocard. Une femme de 41 ans toujours en garde à vue après la découverte chez elle hier de 2 corps de bébé dans un congélateur, c'est à Bédouin dans le Vaucluse. Alors on ignore encore à ce stade son lien avec les nouveau-nés. Cette femme a par ailleurs 3 enfants et c'est peut-être l'un d'eux, par l'un d'eux en tout cas, que les gendarmes ont été alertés. On y revient dans le journal de 12h30.
RTL Coupe du Monde 2022.
Déjà 15 jours de compétition et ce sont les derniers matchs de poule aujourd'hui au Qatar, la fin d'un premier tour qui a réservé bien des surprises.
Et c'était encore le cas hier avec les éliminations de la Belgique et de l'Allemagne, deux des grandes nations du foot européen. La qualification plus inattendue aussi du Maroc et du Japon. Les Japonais, déjà tombeurs de l'Allemagne, ont en effet battu les Espagnols hier soir et décroché ainsi leur billet pour les 8e. Hugo Hamelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar et vous êtes devant l'hôtel des Japonais avec des supporters qui n'ont pas beaucoup dormi cette nuit.
Oui, et nous avons été obligés d'interrompre l'interview à plusieurs reprises. À chaque fois qu'un joueur nippon sortait de l'hôtel, en fait, comme Hiroki Sakai, l'ancien Marseillais que nous avons vu. Alors j'ai délaissé mon micro pour me transformer en photographe pour les fans japonais. Take a picture. Voilà, j'ai pas vraiment eu le choix. Après les photos, Itoshi a quand même bien voulu me donner son sentiment avant de retrouver la Croatie en 8e de finale et surtout me détailler la particularité des Blues Samurai, le surnom de l'équipe japonaise. C'est cet état d'esprit qui fait d'elle une formation à part dans ce mondial.
Yesterday we didn't expect we can win.
Hier, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait battre l'Espagne. Alors aujourd'hui, on n'a pas du tout peur de la Croatie.
After Croatia,
et peut-être même au prochain tour, après la Croatie, on va affronter le Brésil. C'est ça la mentalité japonaise. Ne jamais abandonner, courir ensemble, c'est notre ADN.
La courageuse équipe du Soleil Levant qui poursuit sa route, c'est devenu la coqueluche ici à Doha. Depuis ce matin, je vois les supporters qui se sont arrêtés tous les 10 mètres dans la rue. Tout le monde veut prendre des photos avec eux.
Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux donc de RTL au Qatar. Les derniers billets pour les 8e de finale se joueront aujourd'hui. Le programme à 16h, Ghana, Uruguay et Corée du Sud, Portugal. Ce soir à 20h, le Cameroun affronte le Brésil et la Serbie sera face à la Suisse. Je vous rappelle que les Bleus affronteront la Pologne. Ce sera dimanche à 16h et ce sera à vivre évidemment en direct sur RTL. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin pour un après-midi frisqué et un poil sombre.
Oui, tout ça, hein, c'est merveilleux. Alors c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de grisailles sur tout le territoire, tout l'après-midi. Une petite poche ensoleillée quand même pour la Bretagne. On aura des éclaircies pas trop vilaines aussi des Pyrénées à la Méditerranée. Pour tous les autres, que du gris, quelques petites ondées qui circulent entre l'Île-de-France et le Nord-Est. On a quelques averses également dans la vallée du Rhône. Et puis les températures, ça va plafonner à 4 degrés à Nancy au meilleur de l'après-midi, 5 à Reims, 6 à Paris et Lyon, 9 à Cherbourg et Biarritz, 10 pour Montpellier et 16 degrés, ce sera la maximale pour Ajaccio.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
C'est l'heure de partir en région. RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction Pierre Bénite dans le Rhône. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Pas de patinoire de Noël cette année pour les enfants de la commune. Décision du maire pour des raisons budgétaires à cause des prix de l'énergie. Pas de patinoire donc, mais un roller park beaucoup moins consommateur.
Exactement, vous entendez la différence. Pas de crissement de patins, pas de glace. Restent les crises et les chutes, moins fraîches forcément, mais les enfants apprécient. Même si à l'évidence, la patinoire sur la place de la mairie leur manque.
C'est bien, mais c'est pas mieux que la patinoire.
C'est pas mieux que la patinoire.
C'est mieux que la patinoire.
Non, non, pas mieux.
Parce qu'il n'y a pas de glace.
On peut mieux glisser. Non, la glace, on peut mieux glisser.
Mais c'est bien quand même.
Oui. Bah parce que c'est mieux déjà. Il n'y a pas de glace par terre.
C'est moins froid.
Oui.
T'es moins mouillé.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites comme jeu par exemple?
Le touche-touche.
C'est pareil, c'est juste la glace qui change.
Voilà, le touche-touche, le roller park, ça fonctionne quand même. Les enfants s'amusent, c'est l'essentiel et à moindre coût.
Oui, parce qu'une patinoire, j'imagine, Frédéric, c'est beaucoup plus cher.
Et même trop cher pour une petite commune comme Pierre-Bénite, 11 000 habitants. Alors que cette piste de roller, c'est un coût divisé par 3, justifie le maire Jérôme Moroge.
Vous aviez avant une patinoire qui pouvait coûter jusqu'à 40 000 euros avec l'augmentation des coûts de l'énergie. Pour nos communes, eh bien vous doublez le prix, donc vous êtes à quasiment 80 000 euros. Au contraire, la piste de roller, c'est plutôt entre 20 et 30 000.
Une décision en tout cas bien comprise par les parents.
Vu les temps qui courent, c'est raisonnable. C'est vrai qu'on faisait aussi la patinoire, mais il y a quelque chose. Donc lui, il est content, il retrouve ses copains de l'école. Donc pour eux, c'est l'essentiel.
Il y a un petit peu la magie de l'hiver avec la glace et tout ça qui manque un peu. Mais je préfère qu'ils fassent des économies sur ça que sur d'autres services publics essentiels aux habitants.
Alors, c'est une petite économie, Frédéric, mais le problème, il reste entier. Comment on règle ces factures énergétiques ?
Ah oui, clairement, un casse-tête pour le maire, car on peut réellement parler de flambée des prix.
Aujourd'hui, on ne sait pas comment on va pouvoir monter un budget pour 2023. Pour une commune comme la nôtre, il faut prévoir 1 million, 1,5 million, 2 millions, selon les prévisions, supplémentaires pour pouvoir ne serait-ce que se chauffer et éclairer le mobilier urbain. Certains prestataires nous annoncent une augmentation x3, x4, voire x8. Demain, nos communes vont être en cessation de paiement. Très clairement.
Ingérable donc pour le maire de Pierre-Bénite qui appelle l'État à l'aide comme de très nombreux élus.
Merci beaucoup Frédéric Perruche à Pierre-Bénite dans le Rhône, donc pour RTL.
Tous les jours vous en utilisez, vous en envoyez, vous en recevez. Vous ne savez peut-être pas d'ailleurs ce que ça veut dire SMS, cet acronyme. Vous êtes peut-être également dans des boucles familiales, boucles professionnelles. Tout savoir sur les SMS, ont 30 ans. Eh bien on en parle dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Mon père, par exemple, n'a absolument pas WhatsApp. Il a qu'un téléphone Nokia des années 50, donc les vocaux n'existent pas. Et ma mère, souvent, elle est en réunion, etc. Donc c'est plus simple pour elle qu'on communique par SMS. Donc non, je pense que le SMS a encore un peu sa place avec nous.
Encore un peu sa place, le SMS, qui fêtera demain ses 30 ans. SMS pour short message service, devenu incontournable donc dans nos vies, sur nos portables, trentenaires, mais déjà un peu suranné face à l'effort des réseaux sociaux et des messageries en ligne. Bonjour Boris Karlamov.
Bonjour Céline.
D'abord, le tout premier SMS, on dit c'était il y a 30 ans, c'était quoi ?
Il y a 30 ans, presque jour pour jour, le 3 décembre 1992, on le doit à Neil Passworth, 22 ans à l'époque, un SMS plutôt court, deux mots, Merry Christmas, Joyeux Noël en français, que cet ingénieur en informatique pour un opérateur téléphonique a envoyé, eh bien, à l'un de ses patrons à l'occasion d'une fête de Noël d'entreprise, avec tout de même une petite particularité puisqu'il a envoyé ce SMS non pas depuis son téléphone portable mais bien depuis un ordinateur, les téléphones mobiles étant à l'époque dépourvus de clavier. Ce qu'il faut savoir, Céline, c'est qu'à l'époque, le SMS, il n'était pas destiné au grand public, il permettait surtout aux opérateurs de téléphonie mobile d'informer leurs abonnés.
Alors depuis, il a été largement adopté par le grand public justement. Vous avez rencontré de nombreux Français pour préparer ce sujet. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils l'utilisent comment, le SMS, aujourd'hui ?
Eh bien, clairement, ce SMS, il est notamment délaissé par les jeunes au profit des messageries instantanées, WhatsApp, Instagram ou encore Messenger. Ce qui est un peu à la mode en ce moment, ce sont les notes vocales. Vous savez, ces très courts audios, 10, 15 secondes.
On s'enregistre en parlant,
sur son téléphone portable, et ça évite de taper sur son clavier ou bien même de faire des fautes d'orthographe. Alors hier, j'ai pu échanger, vous l'avez dit Céline, avec plusieurs jeunes. eh bien, ces jeunes, ils expliquent que ces SMS, ils les gardent uniquement pour communiquer avec leurs parents. Ils me disent un peu que les parents sont un peu vieux jeu aujourd'hui, qu'ils ont encore du mal à utiliser WhatsApp, à utiliser les vocaux. Donc voilà, les SMS, c'est uniquement pour les parents. C'est aussi dans le cadre professionnel. Il y a Arthur, un jeune lycéen, qui lui m'a confié n'avoir jamais envoyé un seul texto. Arthur, il a à peine 19 ans. Alors, quelques chiffres. Sur la tranche d'âge 16-24 ans, l'usage des messageries en ligne sont en hausse de presque 54% sur un an, tandis que l'usage des textos, des SMS, chute de 29%. Et aujourd'hui, clairement, le SMS est en déclin, mais il continue à survivre.
Alors, je pense à nos auditeurs qui ne savent peut-être pas ce qu'est WhatsApp. Ça fait deux fois que vous dites WhatsApp. Mais envoyer un message par WhatsApp ou envoyer un message par SMS, c'est pas le même support, mais c'est la même technique.
Ce n'est pas vraiment la même chose, Pascal. Ce sont deux technologies différentes. SMS, c'est quelque chose qui est intégré dans votre téléphone. WhatsApp, oui. C'est une application qu'on télécharge. Sur les plateformes.
Bah, j'ai le sentiment,
et qui implique
en tout cas,
une connexion Internet.
Et qui implique une connexion Internet.
Oui, mais comment dire, dans les deux cas, vous envoyez un message à quelqu'un qui le reçoit et vous l'écrivez de la même manière. C'est en cela qu'il y a quand même un
message
un parallèle.
Comme un autre, mais c'est la technologie qui est différente, oui. Et ça permet d'aller plus vite, notamment dans la réception,
moi,
dans l'envoi.
Moi, j'ai le sentiment, pour tout dire, que quand je fais un message WhatsApp, c'est un message SMS. Pour moi, c'est la même chose. C'est ça que je veux vous dire.
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
La différence, par exemple, c'est que si vous êtes dans un endroit, Pascal, où vous n'avez pas de connexion Internet de 4G, ouais. De 3G, WhatsApp ne passera pas, ce sera le 4G SMS.
J'ai bien compris l'affaire. Bon, pendant les fêtes, évidemment, on envoie ses vœux par SMS.
Ben là aussi, ça devient ringard, Pascal. Donc, voyez, c'est par SMS. On se souvient de ces années où, au Nouvel An, eh bien, le réseau était totalement saturé. Il vous fallait 5-6 minutes avant de pouvoir envoyer un SMS. Eh bien, aujourd'hui, ça a pas mal changé. Hein. Les SMS, ils perdent du terrain, toujours au profit des réseaux sociaux. Un chiffre, entre le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, les trois opérateurs de téléphonie, eh bien, ont constaté une baisse d'environ 7% des échanges de SMS au moment des vœux. Je ne sais pas si c'est encore votre cas, Pascal, aujourd'hui, mais vous souhaitez les vœux comment, vous ?
Je souhaite les vœux, je réponds. plus souvent que je n'adresse, ouais, et autrement, ça, les miens sont proches de moi le 31 décembre. Vous envoyez des SMS pendant le journal ?
Pendant le journal, oui. Oui, oui, pour préparer notamment le journal de midi et demi qui aura lieu dans une dizaine de minutes. On parlait langage texto au moment de la grande vogue des SMS. Boris, est-ce que ça a eu les conséquences qu'on craignait, notamment sur l'orthographe, le parler texto, les abréviations ?
Oui, clairement. L'avantage des textos, c'était de faire des abréviations, donc avoir un gain de temps à l'écriture d'un message. Mais on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui, ils font un peu plus d'efforts. Ils ont envie de parler en bon français, entre guillemets, un peu terminer les abréviations OK pour dire OK, BB, les deux lettres B pour dire BB, BE, BE. Aujourd'hui, on fait un peu plus l'effort, surtout quand ils écrivent à leurs parents, quand ils écrivent à leur patron. On voit que la donne est en train de changer et peut-être que les jeunes sont un peu moins feignants qu'avant.
Bah merci en tout cas pour ces explications. Dans un instant, RTL Midi, votre vie, et on va en parler tout de suite.
On va parler vin nouveau parce qu'il n'y a pas que le Beaujolais dans la vie, Pascal.
Exactement.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Ah, ce doux bruit.
Allez, viens, un petit couvert à la maison.
Plus fort, Pascal.
Non. Oh,
c'est un peu trop chuchoté, ça. Non. Il n'y a pas que le Beaujolais nouveau dans la ville. Il en existe d'autres, des vins nouveaux qui arrivent chez vos cavistes en ce début décembre. Bonjour, Jérôme Baudouin.
Bonjour Céline et Pascal.
Vous êtes tout pareil. Vous êtes rédacteur en chef à la revue du Vin de France. Vous êtes venu nous parler vin nouveau aujourd'hui. D'abord, pour les non-initiés, c'est quoi la différence entre un vin nouveau et un vin, disons, classique ?
Alors, un vin nouveau, en fait, est commercialisé juste après sa fermentation. C'est-à-dire, alors vous avez des vins de pays qui peuvent être commercialisés troisième semaine d'octobre. Vous avez le Beaujolais nouveau, qui est le plus connu de tous, qui est commercialisé troisième jeudi de novembre. Et puis, bien, vous en avez d'autres, des vins d'AOC, qui, eux, sont commercialisés début décembre. Et c'est la brièveté après laquelle ils sont commercialisés qui fait qu'on les appelle des vins nouveaux.
Mais n'importe quel Grand Bordeaux, par exemple, pourrait être un vin nouveau s'il était commercialisé tout de suite ?
Ah non, 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 il y a des appellations qui l'autorisent et des appellations qui n'autorisent pas. Donc on va avoir par exemple des Touraines, on va avoir des vins d'Anjou, on va avoir les Côtes-du-Rhône, des Bordeaux, on a des Bordeaux qui peuvent être commercialisés début décembre. Mais vous ne pourrez pas avoir, par exemple, un Saint-Émilion ou un Pauillac qui arrivera en tant que vin nouveau, parce que leur décret d'appellation leur demande d'être commercialisé un an après leur vinification.
Donc le vin nouveau, que les choses soient claires, les raisins ont été récoltés il y a exactement un an.
Ah non, là, ils ont été récoltés.
Il y a 3 mois.
Les vins nouveaux, il y a 3 mois, c'est-à-dire là, c'est la vendange de septembre.
Ah,
donc on va goûter le vin de 2022.
Et ça donne un goût particulier, le fait de les consommer aussitôt ?
Ben on est encore sur ce qu'on appelle des arômes de fruits fermentaires, c'est-à-dire on est encore sur le jus de fruits. Enfin, on est sur des vins qui sont vraiment gouléants, qui ont peu de tanins, qui sont très agréables. Ça rappelle le petit rouge de comptoir qu'on pouvait avoir au café,
au Côte du Rhône. Ça arrache.
Pas nécessairement, non.
C'est bon ? Parce que ça n'a pas forcément bonne réputation, le vin nouveau, disons-le.
Ça passe tellement bien, pas tellement une bonne réputation, mais quand c'est bien fait et qu'on a le vigneron a réussi à préserver les arômes de fruits et que les raisins sont mûrs, on a un vin vraiment qui est digeste, agréable, pas trop alcoolisé.
Donnez-nous quelque chose à un prix abordable qu'on puisse boire. C'est plutôt un vin de table, dites-vous, plutôt un vin du déjeuner ou un vin du petit déjeuner qu'un
vin. Oui, voilà, c'est un vin.
Le concept du vin du petit déjeuner est intéressant d'ailleurs.
Ouais, je sais pas si je me risquerais à le conseiller au petit déjeuner, mais non, mais on peut prendre par exemple des Côtes-du-Rhône là qui arrivent en primeur, qui vont être très agréables. Vous avez des Coteaux du Lyonnais, vous avez des Saint-Pourçains. Là, il y a la ficelle de Saint-Pourçain qui va arriver là.
Et ça vaut combien ça, la bouteille?
Là, de lundi prochain.
Ça vaut combien?
C'est des vins à les 5-6 bouteilles, 5-6 euros.
Et c'est un marché de niche comme ça, le vin nouveau, ou c'est un gros marché?
Ça reste quand même un marché de niche, sauf dans l'hôtellerie-restauration. C'est-à-dire que ce sont des vins qui vont être captés par les cavistes, par les restaurateurs, pour les avoir à table et les proposer, pour les restaurateurs, en brasserie par exemple, assez rapidement aux consommateurs.
On comprend que ce ne sont pas forcément les vins qu'on prendra sur nos tables de fête à Noël. On parle beaucoup du Beaujolais. Pourquoi c'est celui-ci qu'on connaît plus que les autres?
Parce que le Beaujolais était le premier à se mettre en avant dès les années 60 pour être commercialisé tôt. Et puis dans les années 70 et 80, ils ont fait une grande campagne de communication. Donc tout le monde a vu les avions, les charters de Beaujolais qui partaient au Japon. Ça a eu un succès énorme. Les fêtes qui étaient organisées le troisième jeudi de novembre. Et ce qui fait qu'en fait, le plus connu de tous aujourd'hui, c'est le Beaujolais. Mais il en existe d'autres.
Les autres, ils ont goût de banane aussi ou
donc,
pas?
Dans toutes les régions de France. Non, pas nécessairement. Là, le goût de banane, c'est propre au Gamay, selon les années. Mais non, les autres sont issus d'autres cépages. Donc évidemment, on va pas avoir les mêmes arômes de banane. On va plutôt avoir des arômes de fruits rouges ou de fruits noirs, par exemple.
Merci beaucoup, Jérôme Baudouin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la Revue du Vin de France. Merci pour cet éclairage sur les vins nouveaux.
Et c'était donc RTL Midi, votre ville. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Votre grande édition de la mi-journée, Céline.
La réforme des retraites sera présentée le 15 décembre, mais les Français nés à partir du deuxième semestre 1961 sont déjà prévenus. Ils vont devoir travailler plus longtemps. Les négociations continuent, certes, mais Elisabeth Borne a déjà fixé un cadre. On vous dira tout. À suivre aussi, une femme en garde à vue dans le Vaucluse après la découverte chez elle hier de deux nouveau-nés dans un congélateur. La grève à la SNCF, seuls 4 TGV sur 10 sur les rails. Tout le week-end, les contrôleurs sont en grève pour réclamer des revalorisations de salaire. Emmanuel Macron attendu à la Nouvelle-Orléans, dernière étape de son voyage aux États-Unis. Et puis le mondial de foot au Qatar, dernier match de poule aujourd'hui. Les Bleus, eux, préparent leur 8e de finale face à la Pologne. Ce sera dimanche et face à un certain Lewandowski. Lewandowski qui aurait peut-être pu porter le maillot du PSG. Philippe Sanfour, je vous dirai tout. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT Midi, rendez-vous musique aujourd'hui. Stephen Bellerin nous donnera des nouvelles de Zazie et de Goldman. Joli programme. La question du jour sur votre site rtl.fr. Des possibles coupures de courant sont annoncées cet hiver. Est-ce que cela vous inquiète?
Nous parlerons de tout ce sujet avec les auditeurs. J'ajoute, pourquoi les grandes affaires criminelles vous passionnent-elles autant? Eh bien, vous pourrez en parler avec Caroline Picozzi à partir de 13h40, qui vient de publier avec Jean-Yves Le Born le formidable livre « Accusé, levez-vous », photos et documents rares de grands procès. À tout à l'heure.
Ça aussi, ça vous passionne, la météo, et c'est avec Valérie Quintin aujourd'hui. Valérie, un indice pour ce qui nous attend cet après-midi?
Ah ben c'est l'hiver, on a de la grisaille et du froid, tout il y a, même un petit peu de neige, très très haut.
Bon, les détails à la fin du journal, merci Valérie.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Une enquête préliminaire pour meurtre est ouverte au lendemain de la découverte de 2 corps de bébés dans un congélateur à Bédouin, dans le Vaucluse. Une femme de 41 ans est toujours en garde à vue ce midi, sans que l'on connaisse à ce stade son lien avec les nouveau-nés. Cette femme a par ailleurs 3 enfants et c'est d'ailleurs peut-être par l'un d'eux que les gendarmes ont été alertés. Adrien Quintard, vous êtes dans la commune pour RTL où ce matin les voisins tombent des nues.
Oui, c'est le cas de Lionel qui tient un restaurant de burgers juste en dessous de la maison au volet bleu et désormais sous scellé où vivait la principale suspecte. Il la connaissait depuis plusieurs années mais ne l'avait jamais vue enceinte.
Ça fait 5 ans que je suis ici, donc oui, en 5 ans, je l'ai côtoyé assez tous les jours quand même. Matin, bonjour, et le soir quand on rentre, enfin voilà quoi, je veux dire, comme tout voisin se croise dans une journée quoi. On peut pas se douter que notre voisine fait ça quoi. On est choqué depuis hier en fait, donc oui, non, on n'est pas préparé à ça et maintenant on va faire avec.
Choqué aussi une commerçante qui a sa boutique à seulement quelques mètres du domicile où ont été découverts les corps des 2 bébés congelés.
C'est la surprise parce que même si je connaissais pas la maman, c'est quand même des gens qu'on voit passer, elle a d'autres enfants. J'espère juste qu'il y aura un vrai suivi psychologique, surtout pour les enfants aussi, parce que c'est quand même à eux qu'on pense en premier quoi.
La femme de 41 ans, toujours en garde à vue, vivait ici avec ses 3 filles. Elle a été soumise à des examens psychologiques et psychiatriques. Une autopsie des 2 corps des 2 bébés sera réalisée ce lundi pour déterminer les causes de la mort, mais pour l'heure, impossible de préciser l'âge et le sexe de ces nourrissons, ni leur lien entre eux ou avec la femme en garde à vue.
Adrien Quintard à Bédouin dans le Vaucluse pour RTL.
RTL Midi.
6 TGV intercités sur 10 qui restent à quai tout le week-end. La grève des contrôleurs à la SNCF provoque de grosses perturbations sur les rails.
Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur statut et une revalorisation salariale. 300 euros de plus par mois. Demande justifiée pour Nicolas, 45 ans et chef de bord depuis plus de 20 ans.
On part 10 ans après à la retraite. À l'époque, on avait ce petit privilège, comme certains aiment le dire, même si ce n'en est pas un, puisqu'on se payait ce départ en retraite. À l'époque, on partait à 55 ans. Ce statut nous convenait quasiment. Donc, on n'a jamais parlé de ces problèmes-là, ou très peu. Aujourd'hui, on va bosser 10 ans de plus, on a de plus en plus de tâches, on est de plus en plus tout seul. Ben oui, évidemment, il y a un moment donné, on peut dire qu'on est usé, ras-le-bol. Oui, l'entreprise nous a écoutés, nous a pas encore entendus. Je pense qu'ils sont sur le chemin, mais il en faut un peu plus. S'ils veulent vraiment que tout le monde passe des bonnes fêtes à Noël, il faut qu'ils nous donnent quelque chose de concret. Et puis peut-être des promesses, un calendrier où on pourra discuter des choses dans les 6 mois. On a attendu 30 ans, on peut bien attendre 6 mois, c'est pas le sujet.
Un propos recueilli pour RTL par Arthur Pereira.
Ce qu'il veut nous dire ce contrôleur, c'est qu'au fond, la SNCF s'est mis à l'ordre du jour des autres salariés en France, effectivement, qu'on ne part pas à 55 ans. Ce n'est pas vraiment un cadeau de Noël que vous fait le gouvernement, mais sachez-le, si vous êtes né après le 30 juin 1961, il vous faudra travailler plus longtemps.
Quelques mois de plus, oui, les personnes nées au deuxième semestre 61 sont en effet les premières concernées par la réforme des retraites. C'est ce qu'indique aujourd'hui la première ministre Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. L'allongement de l'âge de départ à la retraite sera ensuite progressif jusqu'à 64 ou 65 ans, ça on ne le sait pas encore, les négociations se poursuivent, on y revient en détail juste après le journal. Le président de la République, lui, a quitté Washington pour la Louisiane. Emmanuel Macron est attendu à la Nouvelle-Orléans, ville emblématique des liens entre Françaises et Américains. Et cela au lendemain d'un dîner de gala à la Maison-Blanche. Dîner qui, malgré les amabilités affichées, n'a rien effacé des tensions qui subsistent entre nos deux pays. Et notamment sur le plan économique, William Galibert.
Oui, Joe Biden a beau vanter sa superbe relation avec Emmanuel Macron, quand on parle business, l'amitié fait place à la fermeté. Les États-Unis ne s'excusent pas et je ne vais pas m'excuser pour mes décisions, prévient d'emblée le président américain. En clair, Emmanuel Macron, qui était venu chercher quelques concessions face au protectionnisme des USA, a dit les choses, mais il y a encore du boulot.
Je considère que la discussion l'a fait. Maintenant, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux États-Unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en Européens, on doit aller plus vite et plus fort.
Et de toute façon, l'objectif n'était pas de faire plier les Américains, insiste maintenant l'entourage du président français, entourage qui promet qu'il y aura, sur ces sujets économiques, un avant et un après visite à Washington. Mais ça, les réunions entre Américains et Européens prévues dans les prochains mois devront le prouver.
William Galibert aux États-Unis pour RTL.
Un numéro à présent à composer tout le week-end, le 36-37.
36e édition du Téléthon, ce marathon caritatif pour soutenir la recherche et les traitements contre les maladies rares. Les organisateurs espèrent, malgré la crise, récolter plus de 80 millions d'euros, des fonds indispensables pour financer notamment des thérapies géniques comme celle dont a bénéficié Lucie, atteinte d'une amyotrophie spinale, sa maman Julie.
Le diagnostic est tombé le jour de ses 4 mois. Lucie était posée sur le lit devant nous, je savais pas ce qui se passe, je comprenais rien en fait. Donc là, on nous explique un petit peu tout le mécanisme, que ses muscles ne sont plus alimentés car elle produit pas la protéine et que souvent ça conduit au décès de l'enfant. Mais il y a des traitements par thérapie génique. Une injection, une heure. Et c'est tout, enfin, elle est sauvée, elle fait plein de progrès. Déjà, elle a commencé à tenir sa tête parce que du coup, au moment du diagnostic, Lucie ne tenait pas du tout sa tête. Et là, dernièrement, elle commence à tenir debout. Et pourquoi pas, après, essayer d'avancer en marchant.
Un témoignage recueilli pour RTL par Agathe Landais. La lutte contre la grippe aviaire s'intensifie à l'ouest dans les Pays de la Loire et le département des Deux-Sèvres. Les élevages situés autour de foyers et encore indemnes sont en effet vidés préventivement. C'est une annonce du gouvernement ce matin. Dinde, canards et poulets seront abattus plus vite que prévu et les fermes devront rester sans production pendant au moins 3 semaines pour freiner la propagation du virus.
RTL Coupe du Monde 2022.
Ce soir, ils ne seront plus que 16, ces équipes qualifiées. Le Mondial, on connaîtra donc toutes les affiches des huitièmes de finale.
Les derniers billets se disputent en effet dans la soirée. Je vous rappelle le programme du jour. Dès 16h, Ghana, Uruguay et Corée du Sud, Portugal. À 20h, Cameroun, Brésil et Serbie, Suisse. Les Bleus, eux, ont évidemment déjà l'esprit arrivé vers leur huitième de finale. Ce sera dimanche face à la Pologne à 16h et sur RTL, évidemment. La Pologne et son attaquant star Robert Lewandowski. Et nos confrères du Parisien révèle ce matin que Kylian Mbappé l'aurait approché pour le convaincre de venir jouer sous les couleurs du PSG. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Lewandowski à Paris, vraiment ça aurait pu se faire ?
Alors oui, ce qui est certain, c'est que le PSG avait fait du buteur polonais une cible prioritaire l'été dernier. Dès lors, évidemment, que la prolongation de Kylian Mbappé a été actée. Et ce qui était initialement prévu dans le plan de la nouvelle direction, c'était de pousser gentiment Neymar vers la sortie pour faire aussi de la place à Lewandowski, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de monter les Harlem Globetrotters avec Messi, Neymar, Mbappé, Lewandowski. Mais très vite, le départ du Brésilien s'est avéré assez complexe à réaliser, et surtout l'attaquant polonais avait déjà un pied à Barcelone, un rêve de gosse pour lui. Donc les mots de Kylian Mbappé n'auront pas eu d'effet pour l'attirer à Paris, pas plus d'ailleurs que ceux de Karim Benzema, on s'en souvient, à son endroit pour rallier Madrid. Mais il ne faut jamais insulter l'avenir en matière de transfert avec le PSG. Mbappé continue de penser que c'est ce type d'attaquant qui lui est le plus complémentaire, et comme tout ce qu'il dit est parole d'évangile à Paris comme à Doha, eh ben, ce n'est peut-être qu'une question de temps.
Philippe Sanfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar, qui suit précisément l'actualité de l'équipe de France jour après jour. Merci Philippe. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin, vous nous promettez du gris, du froid, bref, c'est pas très réjouissant.
Et pratiquement que ça, quelques gouttes de pluie en Normandie, alors qu'il est, on en a aussi un petit peu quelques averses orageuses qui circulent dans la vallée du Rhône. Sinon, c'est vraiment la grisaille qui l'emporte, excepté quand même en Bretagne, ainsi que des Pyrénées à la Méditerranée. On n'est pas très loin de la neige près des frontières en Lorraine ou encore dans les Ardennes, puisqu'il neige au Luxembourg ou encore en Belgique. On aura quelques flocons de neige sur le Massif central, notamment cet après-midi. Côté température, c'est bien l'hiver. 5 degrés à Strasbourg au meilleur de la journée, 6 à Paris, à Alençon, à Tours, 7 pour Grenoble et La Rochelle, et maximum 13 degrés seulement à Marseille.
Merci Valérie.
Dans un instant, la réforme des retraites, on saura tout. À quelle sauce allons-nous être mangés ? Marie-Bénédicte Allaire va tout nous dire.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Si la Première Ministre et si le gouvernement cherche la confrontation avec les organisations syndicales, eh bien, il va la trouver. Nous, malheureusement, s'il faut que les fêtes soient gâchées par un peu de manifestation contre cette réforme, nous le ferons. Nous n'hésiterons pas à un seul instant.
La réaction de Force Ouvrière alors que la réforme des retraites sera présentée officiellement le 15 décembre. Mais Elisabeth Borne a déjà présenté les grandes lignes du texte dans les colonnes du journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Bon, déjà une certitude, il va falloir travailler plus longtemps. Bon, ça, on s'en doutait. Et ça concernera les Français nés dès 1961.
Oui, parce qu'il faut arriver au bout du compte à un âge de départ légal de 65 ans au lieu de 62 ans aujourd'hui. Et que la réforme va entrer en vigueur fin 2023. Donc, premier concerné, les gens qui sont nés en 1961 et qui auront donc 62 ans l'année prochaine.
Deuxième semestre 61, c'est ça ? C'est la précision ?
C'est ça, deuxième semestre 61.
Mais ce sera progressif, tout ça ?
Alors, ça va monter en puissance pour se terminer en 2031, donc sur 8 ans. C'est pas encore précis, mais ça sera sans doute de l'ordre de 4 mois de plus à travailler par année de naissance, donc 4 mois si vous êtes né en 61, 8 si vous êtes né en 62, 1 an de plus pour les 63 ans, etc.
Bon, en revanche, 64 ou 65 ans comme âge de départ, ça, on ne sait pas encore.
Alors, ça fait effectivement partie des marges de manœuvre. Le Sénat, à majorité de droite, a voté 64 ans et le gouvernement pourrait s'en inspirer, d'autant qu'il aimerait bien avoir le soutien de la droite. Mais il y aurait aussi une augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein. La retraite à taux plein aujourd'hui, si vous êtes né en 1973 et au-delà, c'est 172 trimestres. Eh bien, ça serait peut-être un peu plus pour une retraite à taux plein à 64 ans.
Bon, parmi les annonces d'Elisabeth Borne, Marie-Bénédicte, il y a le montant minimal de cette retraite à taux plein dont vous parlez, il passerait à 1 200 €.
Oui, contre 1 000 euros aujourd'hui, effectivement, pour une retraite à taux plein, c'est une façon de faire passer la pilule pour les petites retraites.
Mais 64 ou 65 ans, c'est pour tout le monde pareil, même les métiers qui ont été particulièrement rudes. On avait une femme de ménage, je me souviens, il y a quelques temps, avec les auditeurs en la parole, elle disait « Je suis cassée, j'ai 56, 57 ans, elle travaillait depuis l'âge de 16 ou 17 ans. »
Il y a ce qu'on appelle les mesures pour la pénibilité qui demeureront et qu'elle veut même, Elisabeth Borne dit qu'elle veut les améliorer. Et puis il y a aussi les carrières longues, ça aussi, ça serait conservé, voire amélioré. Les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, certaines personnes ont commencé à travailler très jeunes, à 14 ans.
Et donc dans ces cas-là, on sait déjà si c'est 39 ans, 40 ans, 41 ans ?
Non, ça fait partie effectivement des marges de négociation.
Autre annonce de la Première Ministre, Marie-Bénédicte, pour les femmes, elles ne devraient plus être pénalisées pour les congés maternité.
C'est ça, à 67 ans, les femmes auront une retraite à taux plein, qu'elles aient tout leur trimestre ou pas.
Politiquement, on l'a dit, le texte sera annoncé, enfin en tout cas la réforme présentée le 15 décembre, puis le texte arrivera en Conseil des ministres en janvier avant d'être débattu à l'Assemblée. Ça s'annonce compliqué ou pas pour le gouvernement politiquement ?
Bah oui, parce que l'opposition veut se battre contre ce texte, mais à gauche, les positions ne sont pas alignées. Marine Le Pen, elle aussi, dénonce une réforme brutale. Alors le gouvernement espère bien avoir l'appui de LR. Est-ce qu'il aura besoin d'un 49-3 ou pas ? Elisabeth Borne, dans son interview, reste dans le flou. Hein, elle ne dévoile pas ses batteries. Beaucoup va sans doute dépendre aussi de la mobilisation de la rue. Les syndicats sont vent debout, on a entendu FO. Mais est-ce qu'ils parviendront à déclencher un mouvement social d'ampleur ou pas ? À ce stade, personne ne peut le dire.
Réforme brutale, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on en parle. Et la première mouture avait échoué. On n'a pas évoqué les régimes spéciaux. Est-ce qu'ils seront conservés, notamment RATP, SNCF ?
Alors,
RATP, SNCF, c'est un peu à part, mais pour les autres régimes spéciaux, c'est pour les nouveaux embauchés. On appelle ça la clause du grand-père, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est très imagé. C'est les nouveaux embauchés qui seront concernés. Voilà.
C'est-à-dire que les régimes spéciaux, en gros, ils vont sans doute perdurer jusqu'en 2040, 2050, 2060. Il y aura peut-être encore des gens qui seront en régime spécial, si j'ose dire.
2060, je ne suis pas sûre, mais ça va s'éteindre petit à petit. Mais c'est déjà le cas, hein, les nouveaux embauchés à la SNCF ou à la RATP, c'est déjà le cas. Donc ça va s'éteindre en sifflet, comme on dit, c'est-à-dire petit à petit. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. On ne doute pas qu'on aura l'occasion de reparler de nombreuses fois de cette réforme
bosser,
des retraites.
Je vous le dis. Hein.
Longtemps. Pour payer la vote peut-être, Pascal, un jour. Mais ce sera avec plaisir, vous savez.
Il est 12h48. En tout cas, ça va faire réagir nos auditeurs, je pense. Et notamment ceux qui ont un métier pénible. Parce que ceux qui aiment travailler, qui ont parfois du plaisir dans le travail, ou en tout cas qui ne sont pas fatigués, ils aimeraient parfois poursuivre.
Ah ben on peut travailler avec plaisir et être fatigué quand même.
Mais il y a des métiers parfois rudes physiquement,
bien
c'est
sûr.
Ce que je voulais dire.
Bien
et
sûr.
Effectivement, ça, les gens vont pouvoir nous appeler au 3210. A tout de suite, on va parler de culture, sans doute.
Musique.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Encore un matin, au juge coupable, ou bien victime, ou bien capable. Encore un matin.
La culture se met à table et ça arrive à être capable tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, toute l'actu musique. On commence donc par un album hommage à Jean-Jacques Goldman. Bonjour Steven Bellrock.
Bonjour à tous.
Le deuxième album pensé réalisé par Eric Benzi, complice de toujours de Jean-Jacques Goldman. Deuxième volume de l'héritage Goldman, plus réussi que le premier, ouais. Steven, selon vous. Vous nous faites donc découvrir deux extraits.
À commencer par Fille Facile, chanson du double album entre gris clair et gris foncé, paru en 1987, titre que s'approprie Carla Bruni. Choix plein d'autodérision de la part de l'auteur-compositrice. Carla Bruni raconte en exclusivité pour RTL pourquoi elle a choisi cette chanson de Jean-Jacques Goldman.
J'adore cette chanson. C'est ma chanson préférée de Jean-Jacques Goldman. Je la trouve très tendre, je la trouve d'une grande poésie, d'une grande galanterie. Elle parle des gens qui aiment faire l'amour et qui le font sans y penser, en quelque sorte. C'est une vraie chanson de l'époque où je suis née, moi, en fait.
Il fait partie de votre playlist, Jean-Jacques Goldman, ou pas trop?
Oh oui, il fait partie de ma playlist. C'est difficile d'écrire des chansons françaises sans avoir écouté Goldman. J'ai eu des périodes où j'ai beaucoup, beaucoup écouté Goldman.
Il nous manque Jean-Jacques, non? Vous rêveriez, vous, d'un jour, qu'il y ait un nouveau disque de Jean-Jacques?
Ouais, ça me ferait plaisir. Après, je reconnais parfois sa patte, par-ci, par-là.
Et il aime bien écrire sous pseudonyme.
Et il a raison.
J'ai une tendresse particulière pour ces filles qui n'ont pas de manières. Les hospitalières, les dociles, vous les appelez les filles faciles. Celles qui marchandent pas leur corps, ni pour des mots, ni pour de l'or. Pour qui faut pas tout un débat, ni pour leur haut, ni pour leur bas. Pour quelques notes de guitare, elles dormiront un peu plus tard. Elles disent que les matins c'est bien, elles disent qu'à deux c'est encore mieux.
Délicate reprise de Carla Bruni, ça vous plaît Pascal?
Ah oui, même ce qu'elle vous avait dit avant est tellement vrai, cette période était tellement légère.
Ah oui. Deuxième volume, plus celtique, on l'entend, hein, que le premier. On y retrouve encore de jeunes talents, mais aussi Michael Jones ou Patricia Cass.
Patricia Cass qui n'avait pas chanté depuis 6 ans, Steven.
Oui, immense interprète à mon sens. Elle revisite Confidentiel, 1985, album non homologué.
Je peux pas te dire qu'il faut pas pleurer. Y a vraiment pas de quoi s'en priver. Et tout ce qu'on a à louper ne valait bien. Peut-être qu'on se retrouvera. Peut-être que, peut-être pas. Mais sache qu'ici, là, je suis là. Ça restera comme une lumière qui me tiendra chaud dans mes hivers. Le petit feu de toi qui s'éteint pas.
Patricia Casque a eu quand même quelques beaux tubes, hein. Signé Jean-Jacques Goldman, elle travaille actuellement sur son prochain album, tranquillement. L'Héritage Goldman volume 2 sort aujourd'hui, spectacle en tournée avec le Chœur Gospel de Paris dès le 9 mars.
Ça sort aussi aujourd'hui, c'est le nouvel album de Zazie.
Il s'appelle LP, 8 titres, tous formidables. C'est le meilleur Zazie depuis Rodéo en 2004.
Et ça commence.
Album qui s'ouvre par cette chanson, ça commence, morceau de doute sur son métier. J'ai demandé à Zazie si elle avait déjà failli tout arrêter.
Je vous confirme, plein de fois. En général, après la promo, ne le prenez pas personnellement, Steven, ça n'a rien à voir avec vous. Nous, on a décidé de faire des chansons et on se retrouve en fait à être VRP de nous-mêmes d'une manière de plus en plus ridicule et outrancière. Et je pense qu'il y a très peu d'artistes qui aiment cette surexposition.
À chaque fois, mon cœur repart. Oui. Alors chaque soir, je recommence.
Oui, Dieu merci à ça.
C'est une drogue, ce métier ?
Mais complètement. Alors, vous savez que le cerveau d'un chanteur en fin de concert, pour la plupart, est équivalent à un cerveau de drogué. Parce qu'il y a de la dopamine, il y a de l'adrénaline, parce qu'on a eu peur, le trac, il faut le gérer, etc. Et donc, endorphine, pour se calmer, qui est exactement la même constitution chimique que la morphine, mais qui est sécrétée par le corps humain en cas de danger, pour qu'il se calme. On est des gros drogués, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment aussi ce côté dépendant à la scène, et je pense qu'il ne faut pas négliger ça. C'est une situation contre nature, comme disait Souchon parfois, très addictive quand même.
Oui, c'est de près comme de loin ce qui fait que j'ai parfois du chagrin. C'est dire si c'est conséquent. Je vois bien comme ça va quand c'est là.
Conséquent, piano voix retrouvé dans LP, le nouvel album de Zazie, tourné des Zéniths dès septembre 2023.
Et on retrouvera Zazie en longueur dimanche dans Laissez-vous tenter à grand format. Dès 9h15, elle sera votre invitée, Steven Bellery. C'est vrai qu'elle est revenue à quelque chose de plus traditionnel alors qu'elle avait tenté l'électro à un moment.
Mais il y a toujours beaucoup d'électro dans ce nouvel album, mais il y a aussi 2-3 piano voix. Il y a une chanson qui s'appelle Gravité qui est très belle. C'est un album très équilibré, je vous le conseille.
Merci beaucoup. Il est 12h57, on va parler football avec Jean-Michel Rascol aujourd'hui avec une question. Est-ce que l'équipe de France, on ne la voit pas trop belle? Vous savez que l'équipe de France va jouer contre la Pologne dimanche et c'est à 16h, 8e de finale. Personne n'imagine que l'équipe de France soit battue. Elle partira largement favorite. Donc si elle perd, ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de changements. Croyez-moi, Deschamps et peut-être Noël Le Graët, ça pourrait être compliqué pour eux. Ils vont jouer la tête sur le billot dimanche à 16h. Non, ils ne joueront pas.
Bien pas sauf si vous vouliez mettre Noël Le Graët sur le terrain, Pascal,
mais pour vous dire que personne n'imagine qu'elle soit battue. Et puis on parlera avec les auditeurs de tous les sujets dont on a parlé dans ce journal et dans cette édition. À tout de suite. RTL Midi.